Bonjour, soyez les bienvenus à l'émission Le quotidien des quotidiens. Hélène Denis qui vous accompagne en cette première journée de février 2018. C'est jeudi. Salutations à vous, Mathieu.
Oh, salutations à vous, madame, aussi.
Et puis, comment ça va?
Je vais très bien, merci.
Qu'est-ce qu'il est écrit sur votre T-shirt?
Il est écrit « Make America Great Again », mais en russe.
Ah, d'accord. Je pensais que c'était à l'envers. Non, c'est en russe.
C'est vraiment en russe.
Est-ce que vous l'avez acheté en Russie?
Non, c'est une amie qui m'a donné ça.
Une amie russe?
Non, même pas, mais qui connaît la culture.
Une espionne russe, ouais. Comme dans la chanson. C'est Joseph Edgar.
Exact.
Vous l'aimez, je pense, cette chanson-là.
Oui, j'aime beaucoup cette chanson, effectivement. Oui.
Alors, tout ça pour nous amener à vos éphémérides.
Oui.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui a rapport avec la Russie dans
vos
éphémérides?
Absolument pas.
Ah, oh, dommage. Habituellement, il y a toujours des petits liens miraculeux à la radio.
Oui, bien, on filtre, hein. On ne dit pas tout ce qui se passe durant...
Ah, moi, je suis pas mal sans filtre à la radio.
C'est vrai?
Oui, mais c'est plus plaisant. Le moins possible de filtre.
Bien, sinon, c'est parce que ça serait trop long, ma feuille, de tout ce qui s'est passé
dans le premier... Ah oui, d'accord, dans votre préparation.
Oui,
vous faites un
tout,
petit ménage, voilà. C'est sûr. OK, on vous écoute.
Je remonte en 1587, où Élisabeth Ière d'Angleterre signe la condamnation à mort de Marie Stuart, ou Stuart, reine d'Écosse, qui était également sa cousine et une héritière légitime du trône d'Angleterre. En 1669, la première représentation publique de la comédie en cinq actes en alexandrin de Molière, Tartuffe. Nous avons en 1854, les édifices parlementaires situés à Québec sont détruits par un incendie. Le gouvernement du Canada uni en profite pour envisager le déménagement du siège du gouvernement à Ottawa. 1870, création de la police provinciale de Québec. La Marseillaise est choisie comme hymne national français en 1879. Un investisseur immobilier enregistre son ranch sous le nom de Hollywood en 1887 et en 1903. Hollywood obtiendra le statut de ville et sera annexé à Los Angeles en 1910. À Turin en 1896, première de l'opéra de Puccini La Bohème. En 1915, le passeport britannique est le premier sur lequel la photo est nécessaire. La gendarmerie royale du Canada est instaurée en 1920. En 1949, le RCA Victor dévoile le premier lecteur de 45 tours. Le code Morse en 1999 disparaît officiellement de toutes les communications pour être remplacé par le système satellitaire GMDSS, soit le Global Maritime Distress and Safety System. Et en 2016, en Chine, une escroquerie en ligne du type système de Ponzi est découverte. Ding Ning, surnommé le Madoff chinois, fondateur de l'entreprise Edubao, aurait escroqué 900 000 personnes pour un montant estimé à 7,5 milliards de dollars. Et oui. Et pour ce qui est des décès, nous avons l'acteur et cinéaste américain Buster Keaton, qui était né en 1895, nous a quitté un 1er février 1966. La romancière Mary Wollstonecraft, dite Shelley, donc Mary Shelley, est décédée en 1851. Et le philosophe mathématicien René Descartes, qui était né en 1596, nous a quitté un 1er février 1896. 650. Et pour
je
ce
pense,
qui est des naissances,
donc
oui,
je suis.
Voilà. Et pour ce qui est des naissances, j'en ai noté trois. En 1882, Louis Saint-Laurent, l'avocat, enseignant et homme politique, est né un 1er février. Claude François, chanteur et acteur français, est né 1939. Et 1964, Mario Pelchat est né un 1er février. Alors, joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent leur fête aujourd'hui, le 1er février.
Mm-hmm. Claude François n'est plus, mais Mario Pelchat est toujours en vie. 54 ans, ça lui fait.
Exact.
T'es encore jeune. Merci. À la une de la presse, un terminal de 650 millions et 1000 emplois. De plus en plus à l'étroit dans ses installations actuelles, le port de Montréal dévoile ce matin son important projet de terminal maritime qui assure son avenir pour au moins 30 ans, à contre-cœur. Palais de justice de Maniwaki, un prévenu de 18 ans blessé d'une balle à la tête. La chronique de Stéphanie Grandmont, gare auprès dangereux dans le métro. Pause repas, la poutine à toutes les sauces. 7 recettes éclatées pour célébrer la semaine de la poutine. De plus en plus à l'étroit dans ses installations actuelles, le port de Montréal ne sera plus en mesure de répondre à la demande croissante pour la manutention de conteneurs d'ici 5 ans à peine. Jalouse de son statut de plaque tournante continentale du transport des marchandises, l'administration portuaire de Montréal dévoile ce matin son projet de terminal maritime de 650 millions qui créera 1000 nouveaux emplois et qui assure son avenir pour au moins 30 ans à contre-cœur sur la rive sud. Un projet d'envergure, le nouveau terminal à conteneurs du port de Montréal s'étendra sur plus de 120 hectares. À titre comparatif, c'est une superficie à peu près équivalente à celle de tout le vieux Montréal. Chacune des composantes de ce grand complexe industriel a été localisée et conçue pour tirer profit au maximum du chenal maritime et des infrastructures ferroviaires et routières déjà existantes sur la rive sud. Jusqu'à 2000 camions par jour, bruit, poussière et hausse importante de la circulation des poids lourds, les résidents de Contrecœur et de la ville voisine de Verchères qui vivent encore plus près du futur terminal à conteneurs de Contrecœur devront se préparer pour 4 longues années de chantier au cours de la phase 1 des travaux. Et des espèces fauniques menacées, la construction du terminal à conteneurs de Contrecœur et sa mise en service vers 2025 auront des répercussions de toutes sortes sur des espèces fauniques et floristiques à statut particulier présentes sur les terrains de l'administration portuaire de Montréal. Avalanche d'amendes contre le plus important déneigeur du MTQ. L'entreprise KL Mainville, qui exécute le plus grand nombre de contrats de déneigement pour le ministère des Transports du Québec dans la grande région de Montréal, a reçu un montant record d'amendes totalisant 76 315 $ depuis le début de l'hiver pour des manquements aux exigences de ses contrats. L'entrepreneur est responsable de 9 des 3 35 circuits routiers sous l'autorité du MTQ, dans la région métropolitaine, principalement des autoroutes, ce qui peut expliquer en partie qu'ils reçoivent les pénalités les plus importantes. C'est KL Mainville qui s'occupe notamment depuis novembre de déneiger l'autoroute 13, lieu du cafouillage monstre où des centaines d'automobilistes ont été coincés pendant plusieurs heures lors de la gigantesque tempête du 14 mars 2017. Mais le patron Serge Mainville, estime être visé de façon exagérée par les surveillants du ministère. Ils ont des exigences abusives envers nous. Ils nous demandent, par exemple, de dégager les entrées et sorties d'autoroute et de faire le chargement et le transport de la neige usée, alors qu'ils ne le font même pas pour les secteurs déneigés par leurs propres équipes, dénonce l'entrepreneur. Je poursuis. Furieux, Serge Mainville a documenté ses assertions en prenant des photos du travail des déneigeurs du MTQ et de celui d'autres entrepreneurs pour montrer que les surveillants tolèrent ailleurs des situations pour lesquelles il a été sanctionné. « Je vais terminer la saison en cours, mais après, je me retire, je ne travaillerai plus jamais pour le MTQ », dit Serge Mainville. Et au MTQ, ministère des Transports du Québec, on indique ne pas pouvoir commenter les doléances de Serge Mainville. La surveillance est la même pour tous les entrepreneurs à contrat pour le ministère, affirme Martin Girard, porte-parole du MTQ. Elle ferait fureur, dit Brian Mulroney, qui est enthousiaste quant à l'éventualité de voir sa fille Caroline prendre les rênes du Parti progressiste conservateur ontarien. Déjà candidate aux élections provinciales prévues le 7 juin en Ontario, Caroline Mulroney continue sa réflexion quant à la possibilité de briguer la direction du Parti progressiste conservateur. Selon son père, l'ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney, elle devrait annoncer sa décision dans les prochains jours. À quelques 4 mois du début de la campagne électorale, le Parti progressiste conservateur de l'Ontario est pris dans la tourmente dans la foulée de la démission de son chef Patrick Brown, visé par des allégations d'inconduite sexuelle par 2 jeunes femmes, rapportées par le réseau CTV la semaine dernière, alors que ce dernier était député fédéral en 2014. La tourmente s'est amplifiée dimanche lorsque le président du parti, Rick Dykstra, a aussi démissionné après que le magazine McLean eut rapporté qu'il avait fait l'objet d'une enquête policière à la suite d'une plainte d'agression sexuelle de la part d'une ancienne employée du Parti conservateur fédéral. Pour l'heure, seul l'ancien conseiller municipal de Toronto, Doug Ford, frère de l'ex-maire controversé de la ville, reine, Rob Ford, a confirmé son intention de briguer la direction du Parti progressiste conservateur. Exclusif à la presse, les 2/3 des Québécois considèrent qu'ils paient trop d'impôts, révèle un sondage léger commandé par l'Institut économique de Montréal, IEDM, un résultat qui semble contredire un autre coup de sonde mené par la même firme peu après. L'enquête menée du 8 au 10 janvier porte à croire que les Québécois sont largement favorables à une baisse du fardeau fiscal. La grande majorité des répondants, 63 % jugent positivement la baisse d'impôts annoncée l'automne dernier, par le gouvernement Couillard, et 67 % d'entre eux trouvent toujours qu'ils paient trop d'impôts. Pour Germain Belzile, chercheur associé à l'IEDM, l'Institut économique de Montréal, le message des Québécois est limpide en cette année électorale. C'est assez clair, les gens veulent des baisses d'impôts. La tendance transcende les lignes de parti. Les électeurs de la coalition Avenir Québec, 76 % du Parti libéral, 70 % et du Parti québécois, 62 % croient tous majoritairement qu'ils paient trop d'impôts. Seuls les électeurs de Québec solidaire détonnent, 44 % d'entre eux estiment qu'ils sont trop imposés, alors que 47 % jugent qu'ils le sont juste assez. Les conclusions du sondage semblent diamétralement opposées à celles d'une autre enquête menée plus récemment par Léger pour le compte du Devoir. Selon ce sondage sur les intentions de vote menée du 22 au 24 janvier, les 2/3 des Québécois sont plus favorables à un réinvestissement dans les services publics, 66 % qu'à une baisse d'impôts, 34 % Le vice-président de Léger, Christian Bourque, dit avoir souri en prenant connaissance des résultats. Il y voit une parfaite illustration du paradoxe des Québécois qui se manifeste au fil des sondages. Les députés de Hong Kong, considérés comme une plaque tournante de la Côte d'Ivoire, ont voté hier en faveur de l'interdiction progressive des ventes d'or blanc. Les députés se sont exprimés à une large majorité pour cette interdiction qui entrera en vigueur d'ici 2021. La décision était très attendue par les défenseurs de l'environnement après l'abolition totale des ventes d'ivoire par la Chine, entrée en vigueur fin 2017. Aujourd'hui est un grand jour pour les éléphants, a déclaré le groupe Wild Aid Hong Kong. Les trafiquants s'exposeront à une amende maximum de 10 millions de dollars hongkongais, 1,5 million de dollars canadiens, et à 10 ans de réclusion. Mais cet amendement à la loi sur la protection des espèces animales et végétales en danger prévoit une interdiction en 3 phases, un délai qui pourrait être exploité par certains et mener à la mort d'un grand nombre d'éléphants d'Afrique, accusent des défenseurs de l'environnement. We'll be right back.
think I love you. Grind me up a coffee with from your name. Put on a record, I'll shake a leg. Grind me up a coffee with from your name. I think I love you. When I hold you, don't let go. I am certain we'll do fine in our new home. Sweet pea, I've been told we'll enjoy growing old. Now I know I love you. Help me with my coat, take me out of the town. We can go anywhere, I'm all yours now. Help me with my coat, take me out on the town. I think I love you. Dance me out to dinner, dine me all night. Spin me round the park and dip me in the moonlight. Dance me out to dinner, dine me all night. I think I love you. When I hold you, don't let go. I am certain we'll do fine in our new home. Sweet pea, I've been told we'll enjoy growing old. Now I know I love you. Kiss me in the kitchen, take me to bed. There's lots to do, but I would have you instead. Kiss me in the kitchen and take me to bed. I think I love you. Settle into dreamland,
just slip away.
Wake up in my arms
every single day.
Settle into dreamland,
just slip away.
I think I love you. I think I love you. I know I love you.
Kiss me in the kitchen, chanté par The Good Lovelies.
À la une du Devoir d'aujourd'hui, 1er février, Chevalier cuivré, Ottawa nage en eau trouble. L'expansion du port de Montréal pourrait être bloquée si le gouvernement applique ses règles de protection des espèces en voie de disparition. Conseil des arts du Canada, l'inclusion peut être profitable. Le budget des subventions de base est passé de 92 à 117 millions et la manne est distribuée en fonction de nouveaux critères. Cinéma, le jour de la marmotte, un succès sans fin. Il y a 25 ans paraissait la comédie fantaisiste de Harold Ramis et Bill Murray. Célébré le 2 février, le jour de la marmotte est à présent une fête connue d'à peu près tout le monde. À cette date, on sort le rongeur de sa tanière et selon la croyance, s'il voit son ombre, il faut s'attendre à encore 6 semaines d'hiver. Le jour de la marmotte, le film, qui a pris l'affiche il y a près de 25 ans, le 12 février 1993, eh bien, il en est question sous la plume de François Lévesque, aujourd'hui dans Le Devoir. PLC, débat sur la décriminalisation de toutes les drogues. États-Unis, Janet Yellen quitte la Réserve fédérale la tête haute. Éric Gay renonce à participer aux Jeux de Pyeongchang. Vous le savez peut-être, il a des problèmes de dos. Et culture, les images du pouvoir de JFK à Donald Trump, sans oublier Napoléon, la chronique d'Odile Tremblay. Inclusion de la relève, des arts autochtones et de la diversité, augmentation générale des subventions de base, celles qui assurent pour un cycle de 4 ans le fonctionnement des compagnies artistiques. Le Conseil des arts du Canada, le CAC, passe aux actes. Ses nouvelles valeurs se reflètent dans l'attribution de ses subventions. En dévoilant les premiers bénéficiaires d'une subvention de base depuis qu'il a adopté en 2015 son nouveau modèle, le CAC incarne sa nouvelle manière et affirme son désir de moduler le paysage artistique. Les changements sont nombreux dans la liste des bénéficiaires d'une subvention de base dont le devoir a obtenu copie. À travers le pays, 1154 organismes ont reçu une subvention de base, ventilant quelque 117 millions en 2017-2018, comparativement à 92 millions en 2016-2017. 110 organismes reçoivent cette subvention pour la première fois, soit 10 % des organismes, et accèdent ainsi à une possible pérennité. Environ 3 organismes sur 5 voient leur subvention augmenter pour ce cycle. Les arts autochtones, des artistes de la diversité, des sourds et handicapés ou des communautés des langues officielles en situation de minorité sont fort encouragés. Quelque 62 % des organismes axés sur ces pratiques ont reçu des subventions à la hausse. 24 nouveaux organismes en reçoivent pour la première fois. Un croque-glace pour venir à bout des trottoirs glissants. Pour venir à bout des trottoirs glissants, Montréal entend faire l'acquisition d'appareils de déneigement qui broient la glace, tel que celui qui a été émis à l'essai dans Ville-Marie. Pas émis, mais mis à l'essai dans Ville-Marie. La mairesse Valérie Plante a fait valoir que les épisodes de gel et de dégel allaient être plus fréquents dans le futur en raison des changements climatiques. Il faut adapter notre flotte de véhicules et d'appareils. Cet appareil, je l'appelle affectueusement le croque-glace, a-t-elle dit. Muni d'un rouleau qui concasse la glace, le véhicule a été testé pendant 2 ans par l'arrondissement de Ville-Marie et selon la mairesse, les résultats sont concluants. Son administration a donc proposé que les arrondissements s'en procurent s'ils le désirent. Le responsable des services aux citoyens au comité exécutif, Jean-François Parenteau, compte recevoir la politique de déneigement mise en place il y a 3 ans. Il rencontrera les maires de tous les arrondissements afin de discuter des meilleures pratiques à adopter. Une table de concertation sera aussi mise sur pied en collaboration avec les représentants des arrondissements et les professionnels en déneigement. L'administration Plante a aussi fait savoir que 3 de ces sites de dépôt à neige étaient au maximum de leur capacité, soit ceux de Lachine, du Sud-Ouest et d'Angrignon. La Ville a donc fait une demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement afin de pouvoir utiliser le site de l'ancien hippodrome Blue Bonnets comme dépôt à neige temporaire. D'autres chefs d'accusation devraient être déposés contre un paysagiste indépendant déjà accusé pour la mort présumée de 5 hommes à Toronto, alors que les enquêteurs continuent de mener des recherches sur des propriétés à travers la ville liées à Bruce MacArthur, a affirmé mercredi la police de la métropole. Le sergent Hank Inzinka a indiqué que les enquêteurs fouillaient maintenant le sous-sol d'une maison où l'accusé aurait travaillé. Bruce MacArthur est accusé de 5 meurtres au premier degré. La police a annoncé lundi que les enquêteurs avaient trouvé 2 bacs à fleurs contenant des ossements de 3 individus. TELUS Québec a présenté ses excuses pour la publication de messages mal traduits sur Twitter mercredi. La veille, des utilisateurs du réseau social se sont amusés à relayer les messages traduits dans un français chaotique pour le compte du fonds TELUS. « Prenez une profonde respiration, broyez-vous, va le tuer », pouvait-on lire. La version en anglais disait « Take a deep breath, ground yourself, go kill it ». L'entreprise a reconnu avoir manqué à son devoir de publier des textes respectueux de la langue française. Le député néo-démocrate Pierre Nantel fait taire les rumeurs. Il ne se portera pas candidat pour le Parti québécois à la prochaine élection provinciale. « J'ai quelque chose à finir, moi, ici », a-t-il lancé au devoir mercredi. La rumeur s'était intensifiée avec l'élection de Martine Ouellet à la tête du Bloc québécois. Madame Ouellette représente la circonscription de Vachon au provincial, circonscription qui chevauche celle de M. Dantel au fédéral. Le départ de Madame Ouellette pour la scène fédérale force la tenue d'une assemblée d'investiture. L'exécutif péquiste de la circonscription propose que celle-ci se tienne le 18 mars prochain. L'exécutif a donné son appui à Patrick Ney, un adjoint de Mme Ouellette, pour l'instant le seul candidat en lice. Le syndicat des travailleuses et travailleurs de Transco CSN a conclu une entente de principe avec l'employeur mercredi après-midi. Les 330 chauffeurs d'autobus en grève de Transco Montréal seront donc de retour au travail dès jeudi matin. La Réserve fédérale américaine a maintenu les taux d'intérêt au même point mercredi au terme de sa dernière réunion de politique monétaire à être présidée par Janet Yellen. La succession de son bref mais remarquable règne à la tête de la Banque centrale promet d'être délicate pour son nouveau président, Jerome Powell. Choisi pour succéder à Ben Bernanke, en 2013, Janet Yellen arrive à 71 ans, à la fin d'un mandat de 4 ans que le président américain Donald Trump n'a pas voulu renouveler. Première femme à diriger la Banque centrale américaine, elle est aussi la première personne à ce poste en 35 ans à ne pas être reconduite pour au moins un deuxième mandat, indépendamment de sa couleur partisane. Le président Trump lui a préféré Jerome Powell, un ancien avocat et banquier d'affaires républicain qui siège au directoire de la Fed, FED, depuis 5 ans et dont la nomination vient d'être confirmée par le Congrès. Vous écoutez le quotidien des quotidiens et c'est Hélène Denis qui vous accompagne. À venir, une chanson et aussi la revue de presse du Journal de Montréal. Bon jeudi, 1er février.
Sur les... et mes fleurs qui se fanent. Sans ton regard, je meurs. Reste avec moi, caméraman. Prends mon bonheur ou ma fortune. Laisse-moi une heure de gloire. J'ai un peu froid dans mon costume. Je sais qu'il se fait tard.
Chanson Sirène, chantée par Pierre Flynn.
À la une du Journal de Montréal, un hôpital fantôme fermé et déménagé au nouveau CUSUM, le Royal Victoria, est laissé à l'abandon. Le bureau d'enquête du Journal de Montréal parle d'infiltration d'eau, moisissures, graffiti. Après TELUS, Molson Coors massacre le français dans une publicité pour un concours. Le gouvernement change les règles, 2 ans pour prendre un congé parental. Le scandale du pain grandit. Éric Gay abandonne, un espoir pour l'or s'envole. Québec assouplit le régime d'assurance parentale. Les parents pourront revenir au travail plus tôt et étaler les congés restants. On veut donner plus de flexibilité aux parents, leur donner la possibilité d'étendre le congé parental sur une plus longue période, a expliqué à notre bureau parlementaire une source bien au fait du dossier. Ce changement est directement lié au mandat confié par Philippe Couillard à plusieurs ministres de son cabinet afin d'améliorer la conciliation travail-famille-études lors du remaniement ministériel d'octobre dernier. D'autres annonces, comme la refonte de la loi sur les normes du travail pour offrir plus de congés aux travailleurs, sont aussi à prévoir. Québec rejette toutefois l'idée d'imiter le régime fédéral et de permettre aux parents d'étirer le congé jusqu'à 18 mois, mais avec une couverture du revenu plus faible. Tiré en plein palais de justice, incapable de maîtriser un jeune de 18 ans, un constable spécial a dégainé son arme et l'a atteint à la tête. Une simple envie de fumer serait à l'origine de l'affrontement entre des agents de sécurité et un jeune qui a été atteint à la tête par une balle tirée par un constable spécial du palais de justice de Maniwaki. Par pure chance, la victime de 18 ans devrait s'en sortir, puisque le coup de feu a pénétré son nez pour se loger dans son cou, ne causant aucun dommage au cerveau, selon la famille. L'échauffourée est rapidement devenue virale après qu'un témoin eut publié une vidéo qui a fait le tour du Québec. Hier soir, la publication comptait plus de 886 000 vues et 24 000 partages sur Facebook. On y aperçoit l'agent de la paix qui empoigne le jeune homme qu'on ne peut pas identifier parce qu'il comparaissait devant le tribunal de la jeunesse afin de le maîtriser. Sa mère supplie le constable de lâcher son fils. Des agents de sécurité observent la scène, intervenant qu'à de rares occasions. L'affrontement se transporte dans une autre pièce hors du champ de la caméra, où plusieurs cris se font entendre. Le constable spécial aurait dégainé son bâton télescopique pour tenter de contrôler le jeune homme, mais celui-ci aurait réussi à lui arracher pour ensuite l'attaquer et le frapper à la tête, selon le Bureau des enquêtes indépendantes, qui tentera d'éclaircir les circonstances de l'événement. Molson forcé de s'excuser pour une traduction bâclée. La brasserie au Québec, depuis plus de deux siècles, a raté son coup avec une publicité. Après TELUS, c'est Molson qui a dû s'excuser hier pour une traduction de mauvais goût, dans laquelle le tirage d'un camion en anglais « Black Label Pickup Truck Sweeps » devenait en français un concours de balayeuse de camionnettes « Black Label ». Dès que nous avons pris connaissance de cette erreur de traduction sur le site Internet, nous avons rapidement apporté les changements nécessaires. Nous nous excusons de toute confusion que cela peut avoir créée, s'est défendue la porte-parole de Molson, Maria Henriquez, par courriel quelques heures après que le journal lui a fait part de la méprise. Royal Victoria tombe en ruine. L'édifice patrimonial situé sur le flanc sud du Mont-Royal à Montréal fête ses 125 ans cette année. Même si les employés et les patients ont quitté les lieux vers le nouvel hôpital du Centre universitaire de santé McGill en avril 2015, le gouvernement provincial ne sait toujours pas quelle sera la prochaine vocation de l'édifice de l'avenue des Pins Ouest. Notre bureau d'enquête a pu y pénétrer facilement cette semaine, seulement en poussant une porte. À l'intérieur, le spectacle donne froid dans le dos. Des infiltrations d'eau ont littéralement défiguré de nombreux locaux, notamment des laboratoires. De simples poubelles ont été installées pour récupérer l'eau qui coule à plusieurs endroits. Des traces de moisissures sont visibles sur les murs et les plafonds. On retrouve également certains équipements qui rouillent tranquillement. Dino Bumbaru, d'Héritage Montréal, compare la situation à ce qu'on a vu après Tchernobyl, ou plus récemment lors de la faillite de la ville de Détroit, où des centaines d'immeubles ont été laissés à l'abandon. D'une certaine façon, c'est terrible et lamentable, mais ce n'est pas nécessairement une surprise, dit celui qui avait déjà fait part de ses préoccupations dans le passé. La porte-parole du CUSUM dit que des mesures sont prises pour réduire les risques de dégradation. Explosion de remplacement, cette surcharge pourrait conduire des professeurs à se trouver un autre emploi. Débordés par une pénurie de suppléants, des enseignants et spécialistes ont été forcés d'effectuer 3 jours plus d'heures de remplacement d'urgence dans les écoles de la Commission scolaire de Montréal depuis 2 ans. Établi à 4 700 heures en 2015, le nombre d'heures de dépannage a bondi à 16 200 en 2017, révèle des données obtenues grâce à la loi d'accès à l'information. Il n'était que de 650 en 2007. Son père entre la vie et la mort, le papa du chanteur Grégory Charles a été heurté mardi soir par une déneigeuse en revenant de l'église. L'accident qui a mis en péril la vie du père du chanteur Grégory Charles n'est que le plus récent d'un hiver qui s'annonce particulièrement tragique. On recense déjà plus de morts dans des accidents liés aux opérations de déneigement qu'au cours des 6 dernières années. La saison s'est entamée de façon tragique le 1er décembre, lorsqu'une fillette de 8 ans a été happée à mort par une déneigeuse à Québec. Le député Guy Ouellet a signé à témoigner l'ex-entrepreneur Lino Zambito était à la barre hier au procès de Nathalie Normandeau et Marc-Yvan Côté. Soupçonné par l'UPAC d'avoir coulé des éléments d'enquête policière aux médias, le député libéral Guy Ouellet sera appelé à témoigner par la Défense cet après-midi au procès de Nathalie Normandeau et Marc-Yvan Côté. Le député de Chomédé, qui ne fait face à aucune accusation dans la foulée de son arrestation et de la perquisition à son domicile le 25 octobre dernier, sera inévitablement questionné sur les fuites de documents sensibles transmis à divers médias au sujet des enquêtes Joug et Machuré. Les avocats de défense tentent depuis hier d'identifier le ou les responsables de ces fuites dans le cadre d'une requête en arrêt des procédures, arguant que leurs clients n'auront pas droit à un procès juste et équitable. Leur pare-brise éclate sur la route. Les cas de voitures endommagées par des morceaux de glace se multiplient en période de verglas. Un couple et ses deux jeunes enfants ont eu la frousse de leur vie quand une plaque de glace s'est détachée d'un camion pour venir fracasser leur pare-brise, un scénario très fréquent en période de verglas, estiment les garagistes. On a eu très peur. Mes enfants d'un an et trois ans étaient assis derrière. On a été très chanceux de s'en sortir indemne, raconte Roxane Lanier, encore ébranlée par l'incident survenu la semaine dernière. CA Québec rappelle que bien déneiger son véhicule est aussi important pour sa propre sécurité que pour celle des autres automobilistes. Il y a des amendes prévues pour les véhicules mal déneigés, précise le directeur des affaires publiques, Philippe Saint-Pierre.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Il fait pas chaud. Même si l'hiver est beau, j'aurais bien le goût de sacrer mon camp jusqu'au printemps. L'hiver pour moi, c'est pour se geler les pieds, puis c'est bon pour se geler la tête dans le temps des fêtes. J'ai pas de skidou, j'ai pas de garage, la slotch partout, moi ça m'enrage. Les grosses tempêtes qui traînent à plus finir, j'ferme toutes mes fenêtres puis j'veux même plus sortir. Wow, il fait pas chaud, même si l'hiver est beau, j'aurais bien le goût de sacrer mon camp jusqu'au printemps. L'hiver pour moi, c'est pour se geler des pieds, pis c'est bon pour se geler la tête dans le temps des fêtes. J'suis comme un ours dans le fond de sa cage, j'cultive la mousse sur mon visage. Du if à frette, du j'ai envie de partir, et je me sens prêt à pas me faire engourdir. Oh, il fait pas chaud, même si l'hiver est beau, j'aurais bien le goût de sacrer mon camp jusqu'au printemps. L'hiver pour moi, c'est pour se geler les pieds, c'est pour se geler les doigts, puis c'est bon pour se geler la tête dans le temps des fêtes. Dans le sud, c'est un maudit beau voyage, l'hiver est moins rude sur une plage. Le grand soleil à 50 cents par jour, ça vaut à peine d'aller faire son petit tour. Oh, il fait pas chaud, même si l'hiver est beau, j'aurais bien le goût de sacrer mon camp jusqu'au printemps. Hey!
Vous aurez sans doute reconnu Plume la Traverse et sa chanson « L'hiver ».
Gala du mérite sportif de l'Estrie pour débuter la tournée des journaux régionaux. Le créateur du monstre du Mamfré honoré, c'est Jérôme Gaudreau qui écrit cet article dans la Tribune. Si le monstre du lac Mamfré-Magog est une légende, il existe toutefois un vrai monstre du Mamfré, selon le président du mérite sportif de l'Estrie, le Tri-Mamfré, conçu par René Pomerleau et ses bénévoles. Voilà entre autres pourquoi le fondateur de cet événement est le nouveau récipiendaire du Victor Spécial. Pour son implication dans le monde du triathlon et pour ses réalisations dans le milieu du ski de fond, René Pomerleau a reçu ce prestigieux prix décerné par le Comité des sages du mérite sportif de l'Estrie. Ce triathlon attire maintenant 2500 participants et le Tri-Mamfré est devenu une référence pour Triathlon Canada. René Pomerleau a créé un monstre, le monstre du Mamfré, a lancé le président du mérite sportif de l'Estrie, Jean Harel, mercredi soir lors de la traditionnelle conférence de presse en vue de la 37e édition du Gala. « C'est une grande surprise parce que je ne me considère pas encore très très vieux », a d'abord affirmé M. Pomerleau. « Ça fait tout de même déjà plus de 20 ans que je suis impliqué dans le sport en région. J'ai donné beaucoup de temps au sentier de l'Estrie pour ensuite collaborer avec le club de ski de fond du Mont Harford, tout en organisant des compétitions de triathlon. » Ce dernier est d'ailleurs l'un des rares officiels de niveau 5 en ski de fond au pays. Il y en a environ 3 ou 4 au Québec et une quinzaine au Canada. Pour être franc, je ne suis pas encore conscient de l'ampleur de ce prix parce que je ne m'implique pas pour ça. Je le fais parce que je suis passionné. Il y a des personnes assez connues qui ont aussi gagné ce prix, alors je suis très honoré. Son dernier bébé, la piste certifiée par la Fédération internationale de ski à l'Université Bishop. C'est un beau projet. Le club de ski de fond du Mont Orford travaillait là-dessus depuis longtemps. Il manquait ça au Québec. On pourra justement tester le parcours dès le 24 février lors de la Coupe Québec, rappelle René Pomerleau. Le Gala du mérite sportif de l'Estrie rendra une fois de plus hommage aux athlètes, entraîneurs, équipes bénévoles officielles, organismes et événements sportifs qui se sont particulièrement distingués au cours de la dernière année. Deux nouveautés cette fois, les catégories athlètes féminines et athlètes masculins en sport collectif au niveau québécois. Ce qui veut dire que 16 victoires, V-I-C-T-O-R-S, seront remis, auxquels s'ajoute le victoire spécial et coup de cœur pour un grand total de 18 prix. Chronique de Isabelle Légaré dans le Nouvelliste, renaître à coups de pinceau. Le courage, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Elle s'appelle Diane Legros. Le foulard rouge, soigneusement placé autour du cou, lui donne un look bohème chic. La dame de 77 ans arbore fièrement aussi l'indémodable béret noir sous lequel ses cheveux blancs sont minutieusement placés. C'est une artiste. Son amie Violette avait pris la liberté de me la présenter dans un courriel. Je l'admire pour sa combativité et son goût de vivre malgré des problèmes de santé et un parcours de vie assez difficile, a-t-elle écrit en laissant entendre que c'est à coups de pinceau que cet allié de longue date s'est remise d'un accident vasculaire cérébral avant de traverser l'épreuve du cancer du sein et d'affronter plus récemment les douleurs d'une hernie discale. Diane Legros est arrivée en avance. Ses deux mains qui serrent la mienne ont déjà eu le temps de se réchauffer. Ses œuvres à l'aquarelle sont exposées sur le mur du café où nous avons rendez-vous, mais c'est de son portrait dont il s'agit ici. La femme de Trois-Rivières avait 39 ans, un époux et trois adolescents au moment d'amorcer des études universitaires en arts plastiques. Elle aurait pu choisir de s'inscrire à un ou deux cours, question de parfaire sa culture personnelle et son talent naturel. Elle a préféré viser le baccalauréat avec ses travaux et examens de fin de session. C'était au tournant des années 80, à une époque où la conciliation études-famille n'était pas encore un concept, davantage une mission de l'ordre de l'impossible. Diane Legros n'oubliera jamais sa première journée à l'université, elle qui venait de terminer ses études secondaires tout en s'occupant de sa progéniture. « J'étais si heureuse, je pouvais m'exprimer dans toutes les formes d'art. Tout ce que j'aimais était là, c'était le bonheur. J'étais au ciel. » C'est au retour à la maison que sa réalité d'épouse et de mère l'a rattrapée. Mari et enfant étaient assis dans le salon, devant la télé. Elle était en retard. Il l'attendait, l'air grave. C'était bien beau, ses cours à l'université, mais le souper n'était pas prêt, pas même une seule patate d'épluchée. Diane Legros rit doucement, en se remémorant la scène qui aurait pu la dissuader de poursuivre ses ambitions. « Je me suis sentie tellement coupable, mais ça a été la seule fois. » La seule fois, oui. Mais 5 ans plus tard, en 1984, cette nouvelle bachelière a obtenu son diplôme au prix d'une dépression majeure. Les études, les responsabilités familiales et les difficultés de son couple avaient fini par l'épuiser. Ça a été très demandant, admet celle qui n'a pas eu la force d'assister à la collation des grades, de revêtir la toge marquant solennellement cette étape. Diane Legros en a eu le cœur brisé, mais se réjouit d'avoir connu une carrière d'aquarelliste qui se poursuit. L'AVC est survenu le 9 mai 2015. En se levant du lit, Diane Legros s'est aussitôt effondrée sur le plancher. « Le bon Dieu est bon. J'ai été capable de me traîner jusqu'au téléphone et de faire le 911. Je me suis sauvée moi-même. » Paralysée du côté gauche, la femme de Trois-Rivières s'est investie dans son rétablissement avec la même discipline et le même degré de motivation que le jour où elle a franchi les portes de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Durant ce long processus où il lui a fallu réapprendre à marcher et à parler, Diane Legros a dû faire le deuil de sa maison, un endroit qu'elle a quitté à regret. « J'étais habituée d'être chez moi, à regarder les oiseaux par la fenêtre. Une maison, c'est toute notre vie. » Diane Legros avait passé son existence à peindre la nature autour d'elle, mais voilà que ses mains ne répondaient plus comme avant à son cerveau. L'équipe de réadaptation savait que cette patiente était une artiste. Lui permettre de renouer avec ce qui la faisait vibrer était la meilleure façon de l'aider à retrouver ses habiletés d'avant. « Faites-moi un portrait », lui a demandé une intervenante dans les semaines suivant l'accident vasculaire cérébral. Nerveuse, la dame a pris un crayon, mais n'y est pas parvenue. « J'étais malheureuse. J'aurais tant voulu lui montrer que j'étais capable », raconte celle qui, déménageait en résidence, s'est remise à ses pinceaux de plus belle, sans vraiment le dire à personne, ou sauf, bien sûr, à Violette. Comme la mère de famille l'avait fait au moment de s'initier aux Beaux-Arts, Diane Legros s'est armée de volonté et d'audace pour laisser s'exprimer son talent. Elle ne l'avait pas perdu, même que la thérapeute a eu droit à son portrait. « J'y suis allée de mémoire. Ce n'est pas ressemblant, mais c'est très beau. » Diane Legros n'a pas cessé de peindre depuis. Malgré l'AVC, le cancer et son dos qui n'a plus la force d'antan, elle n'est jamais à court d'inspiration. La femme dit « vrai ». Le courage, ça ne sort pas de nulle part, ça se travaille, ça se fignole et parfois, il faut reprendre du début, comme une aquarelle. Ses œuvres sont exposées jusqu'à la fin février au café du cinéma Le Tapis Rouge à Trois-Rivières. Ce sont des arbres, des fleurs, des paysages et des visages qui continuent de nourrir l'âme de l'artiste au béret subtilement incliné sur le côté. Dans le droit, Gilles Gagné signe un texte intitulé « Des carrossiers débordés à cause des chevreuils ». C'est plutôt dans le soleil. Il y a tellement de chevreuils dans la baie des Chaleurs qu'à certaines périodes, les carrossiers ne suffisent plus à la tâche pour réparer la tôle froissée à la suite des impacts entre véhicules et cervidés. En 2017, sur les 180 km séparant Matapédia de Port-Daniel, au moins 600 automobilistes ont heurté un Bambi. La hausse est fulgurante depuis 2011, alors que 235 collisions avaient été répertoriées dans cette zone de la baie des Chaleurs. Le nombre de collisions avait presque doublé à 461 entre 2011 et 2014, et il continue de croître compte tenu de la dernière hausse de 38 %. C'est plus tranquille en hiver, mais je dirais que ça représente entre 30 et 40 % de mon volume de travail. Avant, on en voyait un par lune, un chevreuil. Maintenant, c'est tout le temps, précise Patrick Cyr de Cyr Débosselage de Caplan. À l'atelier de débosselage de Carleton, Carole Fugère voit un peu moins de collisions avec des cervidés, puisqu'elle comble 25 % de son travail. Comme M. Cyr, il souligne que l'impact se fait sentir chez tous les clients. On a réparé une Subaru endommagée pour 20 000 $ à cause d'un chevreuil. Ces véhicules ne roulent pas. Nous sommes obligés de les traiter en priorité, ce qui fait que les clients, avec des cas moins urgents, vont attendre d'un mois et demi à deux mois avant de passer à l'atelier, dit M. Fugère. La hausse du nombre de cerfs de Virginie, ils sont près de 10 000, et leur proximité des milieux habités incite un nombre croissant de citoyens à réclamer la réduction du cheptel. Le député de Bonaventure à l'Assemblée nationale, Sylvain Roy, et le président de la Fédération des chasseurs et pêcheurs de la Gaspésie, Alain Poitras, sont du nombre. Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'écouter le Canal M de Vues et Voix. On est ensemble encore une bonne demi-heure avec les actualités culturelles et aussi le segment de sujets libres.
je reste sans voix. À moi, quel est le prix à payer pour voir en vérité? À moi, la misère tachée, ma robe rouge griffée. À moi, je marche sans rien dire dans des ruelles à maudire. À moi, 10 000 mains tendues m'arrachent des refus. À moi, un tiers du monde soupire dans mes grands yeux de cire. À moi, qui n'ai plus qu'à offrir un peu de mon délire.
Catherine Major et sa chanson Sahara que l'on retrouve sur le disque Rose 100.
Actualité culturelle, dans le Journal de Montréal, un chef d'orchestre au service des moins nantis. Depuis 2013, Nicolas Ellis a amassé plus de 25 000 $ pour aider des organismes. À 26 ans, Nicolas Ellis a déjà dirigé des orchestres à travers le Canada, les États-Unis et l'Europe, mais c'est ici même à Montréal que le jeune chef met son expertise au service des moins nantis grâce à l'Orchestre symphonique de l'Agora, qu'il a fondé il y a 5 ans. Certains suivent leur vedette rock préférée aux quatre coins de la planète. Nicolas Ellis, ce Montréalais, préfère partir rejoindre ses chefs d'orchestre préférés à l'étranger allant jusqu'à Berlin pour y voir un concert dirigé par Yannick Nézet-Séguin, ou encore Los Angeles pour y regarder travailler Gustavo Dudamel. À son tour, Nicolas Ellis a été appelé à mener des orchestres en France, en Italie, en Autriche et en République tchèque, pour ne nommer que quelques pays. Ici, il est invité à diriger l'Orchestre métropolitain à différentes occasions, en plus d'être le chef assistant de l'Orchestre symphonique de Québec, sous la tutelle de Fabien Gabel. Tous des endroits où son jeune âge n'a jamais été un obstacle, insiste-t-il. Évidemment, je suis dans une phase de ma carrière où je dois faire mes preuves. Mais par expérience, quand un chef arrive bien préparé et qu'il respecte ses musiciens, il le respecte en retour, peu importe son âge, explique-t-il en entrevue au journal. Depuis 5 ans déjà, Nicolas Ellis met son expertise au profit des plus démunis grâce à sa création, l'Orchestre symphonique de l'Agora. Au fil des ans, leurs concerts ont servi à amasser des fonds pour différents organismes tels que la Croix-Rouge canadienne, Équiterre et la Fondation québécoise pour l'alphabétisation. En tout, ce sont plus de 25 000 $ qui ont été remis à différentes causes depuis 2013. Samedi, ce sera au tour du Carrefour musical de Laval de bénéficier de l'aide de l'Orchestre symphonique de l'Agora avec le concert Da Ponte bien culotté. Pour l'occasion, Nicolas Ellis portera la musique classique en dehors de son circuit habituel jusqu'à la scène du Théâtre Corona. Un choix de salle qui contraste avec l'image habituelle du classique, mais qui n'a pas été choisi au hasard. Je voulais présenter un spectacle dans un cadre plus décontracté, en formule cabaret, où les gens vont pouvoir prendre une bière pendant la représentation. Il n'y aura absolument rien de conventionnel dans ce show-là. Ça va être salé, très salé, avance Nicolas Ellis en riant. En effet, le spectacle portera sur la vie de Lorenzo da Ponte, un poète et librettiste bien connu pour ses diverses collaborations avec Mozart, mais aussi pour ses frasques rocambolesques. Sa vie a été ponctuée de dettes, exils, aventures extra-conjugales et autres scandales notoires. C'est un spectacle qui va complètement détonner des attentes habituelles envers la musique classique. Il a été fait par des jeunes pour un public jeune, de 18 à 45 ans, résume Nicolas Ellis. Mise en scène et narrée par Isabeau Proulx-Lemire, le concert comptera également sur la participation de 6 chanteurs de l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal, et bien sûr, l'Orchestre symphonique de l'Agora. Le spectacle, donc, est présenté samedi 3 février au Théâtre Corona. La tournée estivale de Céline Dion prendra du galon. Après ses concerts en Asie, la chanteuse québécoise visitera l'Australie. Elle s'arrêtera également en Nouvelle-Zélande, confirment les promoteurs Frontier Touring et Concerts West, AEG Presents. La diva amorcera cette deuxième portion de tournée le vendredi 27 juillet à Sydney, selon le site web du Qdos Bank Arena. La plus grande arène sportive couverte en Australie, cette enceinte peut accueillir jusqu'à 21 000 personnes. Les détails entourant ces concerts en sol australien et néo-zélandais seront dévoilés vendredi si l'on se fie aux publications de Frontier Touring sur Twitter. Écoute en ligne, les artistes récoltent en moyenne 38,72 $ l'an. La SOCAN a toutefois perçu des montants records de droits d'auteur en 2017. La Socan a peut-être engrangé des revenus records en 2017, mais elle s'impose toutefois une importante dose de réalisme selon son chef de la direction, Éric Baptiste. C'est dans Le Devoir sous la plume de Philippe Papineau. C'est que les redevances perçues d'Internet ont beau avoir augmenté de 46 % en un an, les créateurs n'ont reçu en moyenne que 38,72 $ en provenance du streaming l'année dernière, affirme la Société de gestion des droits d'auteur. Dans son communiqué, la Socan souligne que le secteur de la diffusion en continu sur le web est en progression, les revenus en étant issus ayant augmenté de 46 % dans les 12 derniers mois. Au total, elle a perçu 49,4 millions dans ce secteur. Mais du même souffle, l'organisme se désole du montant famélique reçu par les musiciens en provenance des Spotify, Netflix et autres Apple Music. La chef des affaires du Québec à la Socan, Geneviève Côté, souligne que ce montant de 38,72 $ par an est une moyenne par créateur excluant les éditeurs. Évidemment, pas besoin d'avoir la tête à Papineau pour savoir que Drake ou The Weeknd n'ont pas fait 38,72 $ de leur revenu en streaming. Alors, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de monde qui doit faire 10 cents, lance-t-elle. Geneviève Côté, qui est en poste depuis 4 ans, a par le passé appelé ses membres à la patience quant à la diffusion en continu de la musique. Là, le marché commence à être développé et le résultat est quand même de 38,72 $ en moyenne. On est obligé de dire qu'il doit y avoir quelque chose qui change. Le chef de la direction de la Socan, Éric Baptiste, a estimé dans le communiqué que si nous souhaitons que les créations musicales originales survivent ou s'épanouissent au Canada, la rémunération liée à la musique numérique doit être corrigée afin d'être proportionnelle à la contribution des créateurs et éditeurs de musique. Geneviève Côté rappelle que les ministres fédéraux, Mélanie Joly et Navdeep Bains, ont dit en décembre qu'ils comptaient revoir la loi sur le droit d'auteur. Il faut que les tarifs changent. Il faudra qu'on tienne compte de la valeur de la musique qui est, disons-le, la matière première de la plupart de ces plateformes de streaming. La Socan, qui compte quelques 150 000 membres au pays, a par ailleurs annoncé des revenus des droits d'exécution publique records qui ont atteint plus de 350 millions en 2017. Le montant représente une hausse de 6,4 % par rapport à 2016. L'organisme sert d'intermédiaire entre les créateurs et tous les joueurs se servent de leur musique, que ce soit les médias traditionnels comme la radio, les plateformes en ligne ou les compagnies diffusant de la musique en fond sonore. Michelle Obama explique sa réaction au cadeau de Melania Trump. On sait enfin ce qu'il y avait dans la jolie boîte bleue Tiffany offerte à Michelle Obama par Melania Trump le jour de l'investiture de Donald Trump l'an dernier. Dans sa première entrevue accordée depuis qu'elle a quitté la Maison-Blanche, Michelle Obama a raconté à Ellen DeGeneres cet épisode où elle a semblé ne pas savoir que faire avec le cadeau reçu. « Il y a tout ce protocole », a-t-elle expliqué. C'est comme une visite d'État. Alors on vous dit que vous devez faire ceci, que vous devez vous placer là. Sauf que tout le personnel avait écarté pour cette journée spéciale et personne ne venait chercher la boîte. Alors je reprends la phrase. Sauf que tout le personnel avait été écarté pour cette journée spéciale et personne ne venait chercher la boîte, a dit en riant Michelle Obama. C'est finalement son mari qui a pris le cadeau et l'a apporté à l'intérieur avant de revenir pour la photo protocolaire. Quant au cadeau, qu'est-ce que c'était? Un joli cadre, a révélé Michelle Obama. Mystère résolu.
Du bist wunderschön, souverän, abgebrüht und witzig. Schenkst jedem gern ein Lächeln, keiner ihr besitzt dich. Jonglierst mit deiner Sehnsucht, du kriegst nie genug. Würdest tanzen auf dem Mond, solange es sich lohnt. Doch da ist irgendwas, das fehlt dir so sehr. Da ist irgendwas, das fehlt dir so sehr. Es gibt irgendwas, das fehlt dir so sehr. Und ich glaube, das bin ich. Deine Klugheit, deine Schönheit, die perfekte Symbiose. Ich liebe alles an dir, komm und nimm diese Rose. Du bringst mich auf Gedanken, die ich gar nicht haben darf. Letzte Nacht hab ich Schluss gemacht mit dir im Schlaf. Denn ich will dich nicht mehr und ich will mich nicht mehr für dich beneiden lassen müssen. Ich will mich nicht mehr und ich will dich nicht mehr ohne Leidenschaft küssen, no, no. No, no. In der Kathedrale meines Herzens brennen für dich die Kerzen. Ich wollte so oft weg von dir, du bleibst mir auf den Fersen. Meine Gedanken von uns beiden bleiben dir fremd. Und wenn ich ganz alleine bin, werde ich weiter für dich singen. Da ist irgendwas, das fehlt mir so sehr. Da ist irgendwas, das fehlt mir so sehr. Es gibt irgendwas, das fehlt mir so sehr. Und ich glaube, es wird immer mehr. Es wird immer mehr. Es wird immer mehr.
C'était la chanson Ingervas de Olli Schütz.
Dans la presse d'aujourd'hui, section pause, défi 28 jours sans alcool, l'art de recevoir sans alcool. Vous recevez un convive qui ne boit pas ou vous voulez organiser un souper sans alcool, alors que commence aujourd'hui le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe qui vise à amasser des fonds pour prévenir la toxicomanie auprès des jeunes. Voici quelques conseils pour bien recevoir sans alcool. C'est un article signé Catherine Henfield. L'idée a passé inaperçue. Selon Hubert Sassy, directeur général d'Éducalcool, les hôtes ou les hôtes, non, on peut dire les hôtes, comme on dit les hommes, oui, les hôtes devraient s'assurer d'une chose, que le choix d'un convive de ne pas boire n'attire pas l'attention et par le fait même éviter les questions indiscrètes. Ce qui est fondamental, c'est qu'on ne puisse pas dire « lui ne boit pas d'alcool, ça se voit et c'est évident », résume-t-il. Pourquoi est-ce fondamental? Parce qu'il y a toute une pression sociale, répond-il. Voyons donc, pourquoi tu ne bois pas? Es-tu malade? Pour que la personne n'ait pas à se justifier 5 fois pendant la soirée, on s'assure de lui offrir des boissons sans alcool, bref, autre chose qu'un verre d'eau. Et évidemment, on n'insiste pas lorsque la personne refuse de l'alcool et on évite de poser des questions. Préparer 2 apéritifs ou plus sans alcool, c'est lors de l'apéro que les gens qui ne boivent pas risquent le plus de se faire remarquer. Hubert Sassy conseille de préparer au moins 2 cocktails sans alcool, 1 sucré, 1 amer pour plaire à tous, et de les ajouter à la liste de boissons offertes aux invités. Même ceux qui boivent de l'alcool pourraient se laisser tenter. Sur le site alternalcool.com, un site d'Éducalcool, vous allez trouver 100 recettes de cocktails sans alcool. Absolument délicieux et savoureux, dit-il. Quelques 33 cocktails se sont récemment ajoutés à la liste après que des participants du concours canadien de mixologie Made with Love eurent créé des recettes sans alcool à l'invitation d'Éducalcool. Accorder mets et boissons sans alcool. L'accord mets-alcool sert à quelque chose, contrebalancer l'acidité, amener une touche de gras, de fraîcheur, d'amertume. Quand on ne veut pas boire d'alcool, il faut remplacer cet alcool par une boisson qui va nous amener le même effet, conseille Jonathan Garnier, chef exécutif à la Guilde culinaire et ambassadeur et membre du comité organisateur du défi 28 jours sans alcool. Dans la majorité des créations culinaires, dit-il, on respecte le triangle amoureux, gras, sucre et acidité-amertume. La boisson peut permettre de compléter cette trilogie et d'ainsi équilibrer les repas. Des exemples d'accords. Par exemple, poursuit Jonathan Garnier, les repas qu'on aurait servis avec une bonne bière amère, un plat gras et sucré par exemple, peuvent très bien être accompagnés d'un cocktail au pamplemousse allongé avec de l'eau pétillante. Vous servez un pâté, un foie gras, une terrine? À l'instar du vin sucré, le jus de pomme effervescent fera très bien l'affaire, dit-il. Enfin, Jonathan Garnier évoque les cultures culinaires thaïlandaises et indiennes qui accompagnent les repas épicés de boissons sucrées et grasses. Les boissons à base de lait de coco, de mangue, de lait condensé chez les Thaïs vont fonctionner, dit-il. Un poulet vindaloo ou un tikka masala bien épicé, vous voulez absolument boire un lassi à la mangue. Offrir de la bière et du vin sans alcool et de l'eau. On peut aussi offrir à ses invités de la bière et du vin sans alcool, suggère Hubert Sassy, d'Éducalcool. Il souligne qu'on trouve sur le marché certaines bières à moins de 0,5 % d'alcool, même des bières locales dont le goût se rapproche beaucoup de celui de la bière alcoolisée. Enfin, ajoute-t-il, le seul verre qui devrait être plein en tout temps, chez ceux qui ne boivent pas comme chez ceux qui boivent, c'est le verre d'eau, parce qu'il est recommandé à tout le monde de se réhydrater au fur et à mesure qu'on boit de l'alcool. On peut l'offrir sous ces deux déclinaisons, plate et pétillante, et même l'agrémenter de zeste de citron, de menthe, etc. pour participer au défi 28 jours sans alcool ou pour encourager un participant. Un article d'Evelyne Audet, Semaine de la poutine. La poutine à toutes les sauces. Du 1er au 7 février a lieu la Semaine de la poutine, ce fameux festival annuel qui invite les restaurateurs à présenter leur poutine la plus créative, ainsi que le public à voter pour leur favorite. Pour cette occasion, nous vous présentons des restaurateurs québécois qui sont reconnus pour leur poutine éclatée. La décadente frites, sauce, fromage en grains, macaroni aux quatre fromages, porc effiloché, maison cuit 8 heures, sauce barbecue Dirty Dogs et oignons caramélisés. C'est ce que contient la poutine Pig Mac, une création de restaurant Dirty Dogs qui semble plaire à Mathieu. En 2013, Dave Lee et Billy Contos ont fondé la marque Eat Dirty sous laquelle sont exploités leurs restaurants Dirty Dogs et Dirty Pizza qui ont maintenant trois adresses à Montréal. Notre idée, c'était de faire des poutines très flyées avec des garnitures extrêmes, mais dont la base est de qualité, avec des frites fraîches et une sauce faite maison. On a presque 20 sortes de poutines, alors il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais la Pig Mac est particulièrement aimée des gens en raison de son côté sucré-salé, qu'apporte la sauce barbecue de l'effiloché de porc et le macaroni au fromage, ajoute-t-il. Parmi les autres poutines décadentes de l'endroit, on retrouve le boss avec son chili au Dr. Pepper, la tornade de viande au steak Philly bacon sauce aioli et œufs frits, ainsi que le Maurice Richard foie gras poêlé, fromage asiago, parmesan et romano, oignons caramélisés et sirop d'érable. Donc, c'est la poutine Pig Mac des restaurants Dirty Dogs, 11 $ petite, 15 $ grosse. La Gaspésienne, depuis plus de 30 ans, le bistrot-bar Brise Bise de Gaspé, remplit la panse de ses clients avec un menu qui met en vedette les produits du terroir gaspésien, dont sa poutine aux crevettes devenue avec le temps l'emblème de l'endroit. Le but était de mettre en valeur la crevette. Dans une coquille Saint-Jacques, on retrouve des crevettes, des pétanques, des pommes de terre et une sauce blanche, et ses goûts fonctionnent très bien ensemble. Alors, la poutine aux crevettes de chez Brisbee's, 9 $ la demi, 16 $ la régulière. La végétarienne, Éric Blais, propriétaire de chez Patates Persil, située à Vaudreuil-Dorion, a toujours eu à cœur la qualité des ingrédients ainsi que le mariage des saveurs intéressants. Il ne s'en cache pas, sa poutine végé est née d'un engouement de sa clientèle pour la patate douce. Je me faisais constamment demander de faire ma poutine avec la patate douce. J'ai tout d'abord choisi le chèvre car je savais que le mariage serait bon. Je le bats avec un peu de yogourt pour ne pas qu'il soit trop épais. Et ça permet aussi à la frite de garder son côté croquant car elle n'absorbe pas de liquide. La poutine végé de chez Patates et Persil, 11 $ avec saumon fumé, 8 $ sans saumon fumé. Il y a aussi l'Opulente, le restaurant La Champagnerie situé dans le Vieux-Montréal a comme mission de démocratiser les bulles en faisant découvrir les produits de petits producteurs à des petits prix accessibles. Le menu de nourriture suit le même objectif. Alors, on parle de frites, évidemment. Une poutine sans frites, ça n'existe pas. Et on y ajoute des morceaux de filet mignon saisi ainsi que du homard. Homard, la sauce qui nappe le plat, faite avec un fond de veau réduit et de la crème, contient du fromage kenogami fondu ainsi que du foie gras. La poutine de la Champagnerie coûte 32 $. Il y a la portugaise chez Ma Poule Mouillée, l'acadienne aussi, ici c'est dans un camion de rue. Je vous donne le prix de la poutine bleue de la cantine Mobile Bleu, une poutine au homard, 14 $, et finalement l'asiatique, les restaurants Sésame qui existent depuis 2011, comptent 7 adresses au total dans plusieurs villes de la province. Et puis, on y offre des poutines, une entre autres au poulet Général Tao. La poutine Général Tao des restaurants Sésame est 15 $ 25. Alors là-dessus, bonne poutine, classique ou... non conventionnel, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est tout pour le quotidien des quotidiens. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Je vous invite à rester avec nous si vous nous écoutez en direct. Les Par Actualité suivent et c'est moi-même, Hélène Denis, qui l'anime avec plaisir. Merci Mathieu Tessier à la mise en onde et au choix musical. À bientôt.